Pendant que ces choses se passaient à Saumur, Charles faisait fortune aux Indes. Sa pacotille s'était d'abord très bien vendue. Il avait réalisé promptement une somme de 6 000 $. Le baptême de la ligne lui fit perdre beaucoup de préjugés. Il s'aperçut que le meilleur moyen d'arriver à la fortune était, dans les régions intertropicales, aussi bien qu'en Europe, d'acheter et de vendre des hommes. Il vint donc sur les côtes d'Afrique et fit la traite des nègres, en joignant à son commerce d'hommes celui des marchandises les plus avantageuses à échanger sur les divers marchés où l'amenaient ses intérêts. Il porta dans les affaires une activité qui ne lui laissait aucun moment de libre. Il était dominé par l'idée de reparaître à Paris dans tout l'éclat d'une haute fortune et de ressaisir une position plus brillante encore que celle d'où il était tombé. À force de rouler à travers les hommes et les pays, d'en observer les coutumes contraires, ses idées se modifièrent et il devint sceptique. Il n'eut plus de notion fixe sur le juste et l'injuste, en voyant taxer de crimes dans un pays ce qui était vertu dans un autre. Au contact perpétuel des intérêts, son cœur se refroidit, se contracta, se dessécha. Le sang dégrandé ne faillit point à sa destinée. Charles devint dur, âpre à la curée. Il vendit des Chinois, des nègres, des nids d'hirondelles, des enfants, des artistes. Il fit l'usure en grand. L'habitude de frauder les droits de douane le rendit moins scrupuleux sur les droits de l'homme. Il allait alors à Saint-Thomas acheter à vil prix les marchandises volées par les pirates et les porter sur les places où elles manquaient. Si la noble et pure figure de génie l'accompagna dans son premier voyage, comme cette image de vierge que mettent sur leur vaisseau les marins espagnols, et s'il attribua ses premiers succès à la magique influence des vœux et des prières de cette douce fille, plus tard, les négresses, les mulâtresses, les blanches, les javanaises, les almées, ces orgies de toutes les couleurs et les aventures qu'il eut en divers pays, effacèrent complètement le souvenir de sa cousine, de Saumur, de la maison, du banc, du baiser pris dans le couloir. Il se souvenait seulement du petit jardin encadré de vieux murs, parce que là, sa destinée hasardeuse avait commencé. Mais il reniait sa famille. Son oncle était un vieux chien qui lui avait filouté ses bijoux. Eugénie n'occupait ni son cœur ni ses pensées. Elle occupait une place dans ses affaires comme créancière d'une somme de 6 000 francs. Cette conduite et ses idées expliquent le silence de Charles Grandet. Dans les Indes, à Saint-Thomas, à la côte d'Afrique, à Lisbonne et aux États-Unis, le spéculateur avait pris, pour ne pas compromettre son nom, le pseudonyme de Seppard. Karl Seppard pouvait sans danger se montrer partout infatigable, audacieux, avide, en homme qui, résolu de faire fortune, quibus cumque viis, se dépêche d'en finir avec l'infamie pour rester honnête pendant le restant de ses jours. Avec ce système, sa fortune fut rapide et brillante. En 1827 donc, il revenait à Bordeaux sur le Marie-Caroline, jolie brique appartenant à une maison de commerce royaliste. Il possédait 1 900 000 francs en 3 tonneaux de poudre d'or bien cerclés, desquels il comptait tirer 7 ou 8% en les monnayant à Paris. Sur ce brick se trouvait également un gentilhomme ordinaire de la chambre de Sa Majesté le Roi Charles X, Monsieur d'Aubrion, bon vieillard qui avait fait la folie d'épouser une femme à la mode et dont la fortune était aux îles. Pour réparer les prodigalités de Madame d'Aubrion, il était allé réaliser ses propriétés, Monsieur et Madame d'Aubrion de la maison d'Aubrion de Bouche, dont le premier captal mourut avant 1789. Réduits à 20 000 livres de rente, avait une fille assez laide que la mère voulait marier sans dot, sa fortune lui suffisant à peine pour vivre à Paris. C'était une entreprise dont le succès eût semblé problématique à tous les gens du monde, malgré l'habileté qu'il prête aux femmes à la mode. Aussi, Madame d'Aubrion, elle-même désespérait-elle presque, en voyant sa fille, d'en embarrasser qui que ce fût, fût-ce même un homme ivre de noblesse. Mademoiselle d'Aubrion était une demoiselle longue comme l'insecte, son homonyme, maigre, fluette, à bouche dédaigneuse, sur laquelle descendait un nez trop long, gros du bout, flavescente à l'état normal, mais complètement rouge après les repas, espèce de phénomène végétal, plus désagréable au milieu d'un visage pâle et ennuyé que dans tout autre. Enfin, elle était telle que pouvait la désirer une mère de 38 ans qui, belle encore, avait encore des prétentions. Mais, pour contrebalancer de tels désavantages, la marquise d'Aubrion avait donné à sa fille un air très distingué. L'avait soumise à une hygiène qui maintenait provisoirement le nez à un ton de chair raisonnable. Lui avait appris l'art de se mettre avec goût. L'avait dotée de jolies manières. Lui avait enseigné ses regards mélancoliques qui intéressent un homme et lui font croire qu'il va rencontrer l'ange si vainement cherché. Elle lui avait montré la manœuvre du pied pour l'avancer à propos et en faire admirer la petitesse au moment où le nez avait l'impertinence de rougir. Enfin, elle avait tiré de sa fille un parti très satisfaisant. Au moyen de manches larges, de corsage menteur, de robes bouffantes et soigneusement garnies, d'un corset à haute pression, elle avait obtenu des produits féminins si curieux que, pour l'instruction des mères, elle aurait dû les déposer dans un musée. Charles se lia beaucoup avec Madame d'Aubrion, qui voulait précisément se lier avec lui. Plusieurs personnes prétendent même que pendant la traversée, la belle Madame d'Aubrion ne négligea aucun moyen de capturer un gendre si riche. En débarquant à Bordeaux au mois de juin 1827, Monsieur, Madame, Mademoiselle d'Aubrion et Charles logèrent ensemble dans le même hôtel et partirent ensemble pour Paris. L'hôtel d'Aubrion était criblé d'hypothèques. Charles devait le libérer. La mère avait déjà parlé du bonheur qu'elle aurait de céder son rez-de-chaussée à son gendre et à sa fille. Ne partageant pas les préjugés de M. d'Aubrion sur la noblesse, elle avait promis à Charles Grandet d'obtenir du bon Charles X une ordonnance royale qui l'autoriserait, lui, Grandet, à porter le nom d'Aubrion, à en prendre les armes et à succéder, moyennant la constitution d'un majorat de 36 000 livres de rente, à Aubrion dans le titre de captal de Bouche et marquis d'Aubrion. En réunissant leur fortune, vivant en bonne intelligence et moyennant des sinécures, on pourrait réunir 100 et quelques 1000 livres de rente à l'hôtel d'Aubrion. Et quand on a 100 000 livres de rente, un nom, une famille, que l'on va à la cour, car je vous ferai nommer gentilhomme de la chambre, on devient « tout ce qu'on veut être », disait-elle à Charles. « Ainsi, vous serez à votre choix maître des requêtes au Conseil d'État, préfet, secrétaire d'ambassade, ambassadeur. » Charles X aime beaucoup d'Aubrion. Ils se connaissent depuis l'enfance. Enivré d'ambition par cette femme, Charles avait caressé, pendant la traversée, toutes ses espérances qui lui furent présentées par une main habile, et sous forme de confidences versées de cœur à cœur. Croyant les affaires de son père arrangées par son oncle, il se voyait ancré tout à coup dans le faubourg Saint-Germain, où tout le monde voulait alors entrer, et où, à l'ombre du nez bleu de Mademoiselle Mathilde, il reparaissait en comte d'Aubrion, comme les Dreux reparurent un jour en Brézé. Ébloui par la prospérité de la restauration qu'il avait laissée chancelante, saisi par l'éclat des idées aristocratiques, son enivrement commencé sur le vaisseau se maintint à Paris, où il résolut de tout faire pour arriver à la haute position que son égoïste belle-mère lui faisait entrevoir. Sa cousine n'était donc plus pour lui qu'un point dans l'espace de cette brillante perspective. Il revit Annette. en femme du monde, Annette conseilla vivement à son ancien ami de contracter cette alliance et lui promit son appui dans toutes ses entreprises ambitieuses. Annette était enchantée de faire épouser une demoiselle laide et ennuyeuse à Charles, que le séjour des Indes avait rendu très séduisant. Son teint avait bruni, ses manières étaient devenues décidées, hardies, comme le sont celles des hommes habitués à trancher, à dominer, à réussir. Charles respira plus à l'aise dans Paris, en voyant qu'il pouvait y jouer un rôle. Des Grassins, apprenant son retour, son mariage prochain, sa fortune, le vint voir pour lui parler des 300 000 francs moyennant lesquels il pouvait acquitter les dettes de son père. Il trouva Charles en conférence avec le joaillier auquel il avait commandé des bijoux pour la corbeille de Mademoiselle d'Aubrion et qui lui en montrait les dessins. Malgré les magnifiques diamants que Charles avait rapportés des Indes, les façons, l'argenterie, la joaillerie solide et futile du jeu de ménage allait encore à plus de 200 000 francs. Charles reçut des Grassins, qu'il ne reconnut pas, avec l'impertinence d'un jeune homme à la mode, qui, dans les Indes, avait tué 4 hommes en différents duels. Monsieur des Grassins était déjà venu 3 fois. Charles l'écouta froidement. Puis il lui répondit, sans l'avoir bien compris. « Les affaires de mon père ne sont pas les miennes. Je vous suis obligé, monsieur, des soins que vous avez bien voulu prendre et dont je ne saurais profiter. Je n'ai pas ramassé presque 2 millions à la sueur de mon front pour aller les flanquer à la tête des créanciers de mon père. » « Et si, monsieur, votre père était, d'ici à quelques jours, déclaré en faillite ?»« Monsieur, d'ici à quelques jours, je me nommerai le comte d'Aubrion. » Vous entendez bien que ce me sera parfaitement indifférent. D'ailleurs, vous savez mieux que moi que quand un homme a 100 000 livres de rente, son père n'a jamais fait faillite, ajouta-t-il en poussant poliment le sieur des Grassins vers la porte. Au commencement du mois d'août de cette année, Eugénie était assise sur le petit banc de bois où son cousin lui avait juré un éternel amour et où elle venait déjeuner quand il faisait beau. La pauvre fille se complaisait en ce moment par la plus fraîche, la plus joyeuse matinée, à repasser dans sa mémoire les grands, les petits événements de son amour et les catastrophes dont il avait été suivi. Le soleil éclairait le joli pan de mur tout fendillé, presque en ruine, auquel il était défendu de toucher, de par la fantasque héritière. Quoique Cornoiller répéta souvent à sa femme qu'on serait écrasé dessous quelques jours. En ce moment, le facteur de poste frappa, remit une lettre à Madame Cornoiller qui vint au jardin en criant « Mademoiselle, une lettre !» Elle la donna à sa maîtresse en lui disant « C'est-y celle que vous attendez ?» Ces mots retentirent aussi fortement au cœur de Génie qu'ils retentirent réellement entre les murailles de la cour et du jardin. « Paris, c'est de lui, il est revenu !» Eugénie pâlit et garda la lettre pendant un moment. Elle palpitait trop vivement pour pouvoir la décacheter et la lire. La grande Nanon resta debout, les deux mains sur les hanches, et la joie semblait s'échapper comme une fumée par les crevasses de son brun visage. « Lisez donc, mademoiselle !»« Ah, Nanon, pourquoi revient-il par Paris quand il s'en est allé par Saumur ?» « Lisez, vous le saurez !» Eugénie décacheta la lettre en tremblant. Il en tomba un mandat sur la maison, Madame des Grassins et Gorée, de Saumur. Nanon le ramassa. « Ma chère cousine !»« Je ne suis plus Eugénie, » pensa-t-elle, et son cœur se serra. « Vous !» Il me disait « tu !» Elle se croisa les bras, n'osa plus lire la lettre. Et de grosses larmes lui vinrent aux yeux. « Est-il mort ?» demanda Nanon. « Il n'écrirait pas, » dit Eugénie. Elle lut toute la lettre que voici. « Ma chère cousine, vous apprendrez, je le crois, avec plaisir, le succès de mes entreprises. Vous m'avez porté bonheur. Je suis revenue riche, et j'ai suivi les conseils de mon oncle, dont la mort, et celle de ma tante viennent de m'être apprises par Monsieur des Grassins. La mort de nos parents est dans la nature, et nous devons leur succéder. J'espère que vous êtes aujourd'hui consolés. Rien ne résiste au temps, je l'éprouve. Oui, ma chère cousine, malheureusement pour moi, le moment des illusions est passé. Que voulez-vous ? En voyageant à travers de nombreux pays, j'ai réfléchi sur la vie. D'enfant que j'étais au départ, je suis devenu homme au retour. Aujourd'hui, je pense à bien des choses auxquelles je ne songeais pas autrefois. Vous êtes libre, ma cousine, et je suis libre encore. Rien n'empêche, en apparence, la réalisation de nos petits projets. Mais j'ai trop de loyauté dans le caractère pour vous cacher la situation de mes affaires. Je n'ai point oublié que je ne m'appartiens pas. Je me suis toujours souvenu, dans mes longues traversées, du petit banc de bois. Eugénie se leva comme si elle eût été sur des charbons ardents et alla s'asseoir sur une des marches de la cour. Du petit banc de bois où nous nous sommes jurés de nous aimer toujours, du couloir, de la salle grise, de ma chambre en mansarde, et de la nuit où vous m'avez rendu, par votre délicate obligeance, mon avenir plus facile. Oui, ces souvenirs ont soutenu mon courage, et je me suis dit que vous pensiez toujours à moi, comme je pensais souvent à vous, à l'heure convenue entre nous. Avez-vous bien regardé les nuages à 9 heures ? Oui, n'est-ce pas ? Aussi, ne veux-je pas trahir une amitié sacrée pour moi ? Non, je ne dois point vous tromper. Il s'agit en ce moment pour moi d'une alliance qui satisfait à toutes les idées que je me suis formées sur le mariage. L'amour dans le mariage est une chimère. Aujourd'hui, mon expérience me dit qu'il faut obéir à toutes les lois sociales et réunir toutes les convenances voulues par le monde en se mariant. Or, déjà se trouve entre nous une différence d'âge qui peut-être influerait plus sur votre avenir, ma chère cousine, que sur le mien. Je ne vous parlerai ni de vos mœurs, ni de votre éducation, ni de vos habitudes, qui ne sont nullement en rapport avec la vie de Paris, et ne cadrerait sans doute point avec mes projets ultérieurs. Il entre dans mes plans de tenir un grand état de maison, de recevoir beaucoup de monde, et je crois me souvenir que vous aimez une vie douce et tranquille. Non, je serai plus franc, et veux vous faire arbitre de ma situation. Il vous appartient de la connaître, et vous avez le droit de la juger. Aujourd'hui, je possède 80 000 livres de rente. Cette fortune me permet de m'unir à la famille d'Aubrion, dont l'héritière, jeune personne de 19 ans, m'apporte en mariage son nom, un titre, la place de gentilhomme honoraire de la chambre de Sa Majesté, et une position des plus brillantes. Je vous avouerai, ma chère cousine, que je n'aime pas le moins du monde mademoiselle d'Aubrion. Mais par son alliance, j'assure à mes enfants une situation sociale dont un jour les avantages seront incalculables. De jour en jour, les idées monarchiques reprennent faveur. Donc, quelques années plus tard, mon fils, devenu marquis d'Aubrion, ayant un majorat de 40 000 livres de rente, pourra prendre dans l'État telle place qu'il lui conviendra de choisir. Nous nous devons à nos enfants. Vous voyez, ma cousine, avec quelle bonne foi je vous expose l'état de mon cœur, de mes espérances et de ma fortune. Il est possible que de votre côté vous ayez oublié nos enfantillages après 7 années d'absence. Mais moi, je n'ai oublié ni votre indulgence ni mes paroles. Je me souviens de toutes, même des plus légèrement données, et auxquelles un jeune homme moins consciencieux que je ne le suis, ayant un cœur moins jeune et moins probe, ne songerai même pas. En vous disant que je ne pense qu'à faire un mariage de convenance et que je me souviens encore de nos amours d'enfant, n'est-ce pas me mettre entièrement à votre discrétion, vous rendre maîtresse de mon sort et vous dire que, s'il faut renoncer à mes ambitions sociales, je me contenterai volontiers de ce simple et pur bonheur duquel vous m'avez offert de si touchantes images. Tantata, tantata, tintata, tontata, 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 avait chanté Charles Grandet sur l'air de Non più andrai, en signant votre dévoué cousin. Charles. Tonnerre de Dieu ! C'est y mettre des procédés, se dit-il. Et il avait cherché le mandat et il avait ajouté ceci. Postscriptum. Je joins à ma lettre un mandat sur la maison des Grassins de 8 000 francs à votre ordre et payable en or, comprenant intérêt et capital de la somme que vous avez eu la bonté de me prêter. J'attends de Bordeaux une caisse où se trouvent quelques objets que vous me permettrez de vous offrir en témoignage de mon éternelle reconnaissance. Vous pouvez renvoyer par la diligence ma toilette à l'hôtel d'Aubrion, rue Hillerin-Bertin. Par la diligence, dit Eugénie, une chose pour laquelle j'aurais donné 1000 fois ma vie. Épouvantable et complet désastre. Le vaisseau sombrait sans laisser ni un cordage, ni une planche sur le vaste océan des espérances. En se voyant abandonnée, certaines femmes vont arracher leur amant au bras d'une rivale, la tuent et s'enfuient au bout du monde, sur l'échafaud ou dans la tombe. Cela, sans doute, est beau. Le mobile de ce crime est une sublime passion qui impose à la justice humaine. D'autres femmes baissent la tête et souffrent en silence. Elles vont, mourantes et résignées, pleurant et pardonnant, priant et se souvenant jusqu'au dernier soupir. Ceci est de l'amour, l'amour vrai, l'amour des anges, l'amour fier qui vit de sa douleur et qui en meurt. Ce fut le sentiment d'Eugénie après avoir lu cette horrible lettre. Elle jeta ses regards au ciel en pensant aux dernières paroles de sa mère, qui, semblable à quelques mourants, avait projeté sur l'avenir un coup d'œil pénétrant, lucide. Puis Eugénie, se souvenant de cette mort et de cette vie prophétique, mesura d'un regard toute sa destinée. Elle n'avait plus qu'à déployer ses ailes, tendre au ciel et vivre en prière jusqu'au jour de sa délivrance. « Ma mère avait raison, dit-elle en pleurant, souffrir et mourir. » Elle vint à pas lents de son jardin dans la salle. Contre son habitude, elle ne passa point par le couloir, mais elle retrouva le souvenir de son cousin dans ce vieux salon gris, sur la cheminée duquel était toujours une certaine soucoupe dont elle se servait tous les matins à son déjeuner, ainsi que du sucrier de vieux Sèvres. Cette matinée devait être solennelle et pleine d'événements pour elle. Nanon lui annonça le curé de la paroisse. Ce curé, parent des Cruchot, était dans les intérêts du président de Bonfons. Depuis quelques jours, le vieil abbé l'avait déterminé à parler à Mademoiselle Grandet, dans un sens purement religieux, de l'obligation où elle était de contracter mariage. En voyant son pasteur, Eugénie crut qu'il venait chercher les 1 000 francs qu'elle donnait mensuellement aux pauvres et dit à Nanon de les aller chercher. Mais le curé se prit à sourire. « Aujourd'hui, mademoiselle, je viens vous parler d'une pauvre fille à laquelle toute la ville de Saumur s'intéresse et qui, faute de charité pour elle-même, ne vit pas chrétiennement. Mon Dieu, monsieur le curé, vous me trouvez dans un moment où il m'est impossible de songer à mon prochain. Je suis tout occupée de moi. Je suis bien malheureuse. Je n'ai d'autre refuge que l'Église. Elle a un sein assez large pour contenir toutes nos douleurs et des sentiments assez féconds pour que nous puissions y puiser sans craindre de les tarir. Eh bien, mademoiselle, en nous occupant de cette fille, nous nous occuperons de vous. Écoutez, si vous voulez faire votre salut, vous n'avez que 2 voies à suivre. Ou quitter le monde, ou en suivre les lois. Obéir à votre destinée terrestre, ou à votre destinée céleste. Ah, votre voix me parle au moment où je voulais entendre une voix. Oui, Dieu vous adresse ici, monsieur. Je vais dire adieu au monde et vivre pour Dieu seul, dans le silence et la retraite. Il est nécessaire, ma fille, de longtemps réfléchir à ce violent parti. Le mariage est une vie, le voile est une mort. Eh bien, la mort promptement, monsieur le curé, dit-elle avec une effrayante vivacité. La mort ? Mais vous avez de grandes obligations à remplir envers la société, mademoiselle. N'êtes-vous donc pas la mère des pauvres auxquels vous donnez des vêtements, du bois en hiver et du travail en été? Votre grande fortune est un prêt qu'il faut rendre, et vous l'avez saintement accepté ainsi. Vous ensevelir dans un couvent, ce serait de l'égoïsme. Quant à rester vieille fille, vous ne le devez pas. D'abord, pourriez-vous gérer seule votre immense fortune? Vous la perdriez peut-être. Vous auriez bientôt 1000 procès, et vous seriez engarrié en d'inextricables difficultés. Croyez votre pasteur. Un époux vous est utile. Vous devez conserver ce que Dieu vous a donné. Je vous parle comme à une oie chérie. Vous aimez trop sincèrement Dieu pour ne pas faire votre salut au milieu du monde, dont vous êtes un des plus beaux ornements et auquel vous donnez de saints exemples. En ce moment, Madame des Grassins se fit annoncer. Elle venait, amenée par la vengeance et par un grand désespoir. « Mademoiselle, dit-elle, ah, voici monsieur le curé, je me tais, je venais vous parler d'affaires et je vois que vous êtes en grande conférence. » « Madame, dit le curé, je vous laisse le champ libre. »« Oh, monsieur le curé, dit Eugénie, revenez dans quelques instants. Votre appui m'est en ce moment bien nécessaire. »« Oui, ma pauvre enfant, dit madame des Grassins. »« Que voulez-vous dire ? Demandèrent mademoiselle Grandet et le curé. « Ne sais-je pas le retour de votre cousin, son mariage avec mademoiselle d'Aubrion ? Une femme n'a jamais son esprit dans sa poche. » Eugénie rougit et resta muette, mais elle prit le parti d'affecter à l'avenir l'impassible contenance qu'avait su prendre son père. « Eh bien, madame, répondit-elle avec ironie, j'ai sans doute l'esprit dans ma poche, je ne comprends pas. Parlez, parlez devant monsieur le curé, vous savez qu'il est mon directeur. « Eh bien, mademoiselle, voici ce que des Grassins m'écrit. Lisez !» Eugénie lut la lettre suivante. « Ma chère femme, Charles Grandet arrive des Indes. Il est à Paris depuis un mois. »« Un mois ?» se dit Eugénie en laissant tomber sa main. Après une pause, elle reprit la lettre. « Il m'a fallu faire antichambre deux fois avant de pouvoir parler à ce futur vicomte d'Aubrion. » Quoique tout Paris parle de son mariage et que tous les bans soient publiés. Il m'écrivait donc au moment où, se dit Eugénie. Elle n'acheva pas, elle ne s'écria pas comme une Parisienne, le polisson. Mais pour ne pas être exprimée, le mépris n'en fut pas moins complet. Ce mariage est loin de se faire. Le marquis d'Aubrion ne donnera pas sa fille au fils d'un banqueroutier. Je suis venue lui faire part des soins que son oncle et moi nous avons donnés aux affaires de son père et des habiles manœuvres par lesquelles nous avons su faire tenir les créanciers tranquilles jusqu'aujourd'hui. Ce petit impertinent n'a-t-il pas eu le front de me répondre à moi qui pendant 5 ans me suis dévouée nuit et jour à ses intérêts et à son honneur que les affaires de son père n'étaient pas les siennes. Un agréé serait en droit de lui demander 30 à 40 000 francs d'honoraires à 1% sur la somme des créances. Et patience, il est bien légitimement dû 1 200 000 francs aux créanciers, et je vais faire déclarer son père en faillite. Je me suis embarquée dans cette affaire sur la parole de ce vieux caïman de Grandet, et j'ai fait des promesses au nom de la famille. Si monsieur le vicomte d'Aubrion se soucie peu de son honneur, le mien m'intéresse fort. Aussi vais-je expliquer ma position aux créanciers. Néanmoins, j'ai trop de respect pour mademoiselle Eugénie, à l'alliance de laquelle, en des temps plus heureux, nous avions pensé, pour agir sans que tu lui aies parlé de cette affaire. » Là, Eugénie rendit froidement la lettre sans l'achever. « Je vous remercie, dit-elle à madame des Grassins. Nous verrons cela. » « En ce moment, vous avez toute la voix de défunt votre père, dit madame des Grassins. « Madame, vous avez 8 100 francs d'or à nous compter, lui dit Nanon. Cela est vrai. Fais-moi l'avantage de venir avec moi, madame Cornoyer. Monsieur le curé, dit Eugénie, avec un noble sang-froid, que lui donna la pensée qu'elle allait exprimer. Serait-ce péché que de demeurer en état de virginité dans le mariage? Ceci est un cas de conscience dont la solution m'est inconnue. Si vous voulez savoir ce qu'en pense en sa somme de matrimoniaux le célèbre Sanchez, je pourrai vous le dire demain. » Le curé partit. Mademoiselle Grandet monta dans le cabinet de son père et y passa la journée seule, sans vouloir descendre à l'heure du dîner, malgré les instances de Nanon. Elle parut le soir, à l'heure où les habitués de son cercle arrivèrent. Jamais le salon des Grandet n'avait été aussi plein qu'il le fut pendant cette soirée. La nouvelle du retour et de la sotte trahison de Charles avait été répandue dans toute la ville. Mais quelque attentive que fût la curiosité des visiteurs, elle ne fut point satisfaite. Eugénie, qui s'y était attendue, ne laissa percer sur son visage calme aucune des cruelles émotions qui l'agitaient. Elle sut prendre une figure riante pour répondre à ceux qui voulurent lui témoigner de l'intérêt par des regards ou des paroles mélancoliques. Elle sut enfin couvrir son malheur sous les voiles de la politesse. Vers 9 heures, les parties finissaient et les joueurs quittaient leur table, se payaient et discutaient les derniers coups de whist en venant se joindre au cercle des causeurs. Au moment où l'assemblée se leva en masse pour quitter le salon, il y eut un coup de théâtre qui retentit dans Saumur, de là dans l'arrondissement et dans les 4 préfectures environnantes. « Restez, monsieur le président, » dit Eugénie à monsieur de Bonfons en lui voyant prendre sa canne. À cette parole, il n'y eut personne dans cette nombreuse assemblée qui ne se sentît ému. Le président pâlit et fut obligé de s'asseoir. « Au président les millions, » dit mademoiselle de Gribeaucourt. « C'est clair, le président de Bonfons épouse mademoiselle Grandet, » s'écria madame d'Orsonval. « Voilà le meilleur coup de la partie, » dit l'abbé. « C'est un beau chelem, » dit le notaire. Chacun dit son mot. Chacun fit son calembour. Tous voyaient l'héritière monter sur ses millions comme sur un piédestal. Le drame, commencé depuis 9 ans, se dénouait. Dire, en face de tout Saumur, au président de rester, n'était-ce pas annoncer qu'elle voulait faire de lui son mari ? Dans les petites villes, les convenances sont si sévèrement observées qu'une infraction de ce genre y constitue la plus solennelle des promesses. « Monsieur le Président, lui dit Eugénie, d'une voix émue quand ils furent seuls. Je sais ce qui vous plaît en moi. Jurez de me laisser libre pendant toute ma vie, de ne me rappeler aucun des droits que le mariage vous donne sur moi, et ma main est à vous. » « Oh, reprit-elle en le voyant se mettre à genoux, je n'ai pas tout dit. Je ne dois pas vous tromper, monsieur. J'ai dans le cœur un sentiment inextinguible. L'amitié sera le seul sentiment que je puisse accorder à mon mari. Je ne veux ni l'offenser, ni contrevenir aux lois de mon cœur. Mais vous ne posséderez ma main et ma fortune qu'au prix d'un immense service. » « Vous me voyez prête à tout, » dit le président. « Voici 1 500 000 francs, monsieur le président, » dit-elle en tirant de son sein une reconnaissance de 100 actions de la Banque de France. « Partez pour Paris. » Non pas demain, non pas cette nuit, mais à l'instant même. Rendez-vous chez monsieur des Grassins. Sachez-y le nom de tous les créanciers de mon oncle. Rassemblez-les, payez tout ce que sa succession peut devoir. Capital et intérêt à 5% depuis le jour de la dette jusqu'à celui du remboursement. Enfin, veillez à faire faire une quittance générale et notariée, bien en forme. Vous êtes magistrat, je ne me fie qu'à vous en cette affaire. Vous êtes un homme loyal, un galant homme. Je m'embarquerai sur la foi de votre parole pour traverser les dangers de la vie à l'abri de votre nom. Nous aurons l'un pour l'autre une mutuelle indulgence. Nous nous connaissons depuis si longtemps, nous sommes presque parents. Vous ne voudriez pas me rendre malheureuse. Le président tomba aux pieds de la riche héritière en palpitant de joie et d'angoisse. « Je serai votre esclave, » lui dit-il. « Quand vous aurez la quittance, monsieur, » reprit-elle en lui jetant un regard froid, « vous la porterez avec tous les titres à mon cousin Grandet et vous lui remettrez cette lettre. À votre retour, je tiendrai ma parole. » Le président comprit, lui, qu'il devait mademoiselle Grandet à un dépit amoureux. Aussi s'empressa-t-il d'exécuter ses ordres avec la plus grande promptitude, afin qu'il n'arrivât aucune réconciliation entre les deux amants. Quand M. de Bonfons fut parti, Eugénie tomba sur son fauteuil et fondit en larmes. Tout était consommé. Le président prit la poste et se trouvait à Paris le lendemain soir. Dans la matinée du jour qui suivit son arrivée, il alla chez des Grassins. Le magistrat convoqua les créanciers en l'étude du notaire où étaient déposés les titres et chez lequel pas un ne faillit à l'appel. Quoique ce fussent des créanciers, il faut leur rendre justice. Ils furent exacts. Là, le président de Bonfons, au nom de Mademoiselle Grandet, leur paya le capital et les intérêts dus. Le paiement des intérêts fut pour le commerce parisien un des événements les plus étonnants de l'époque. Quand la quittance fut enregistrée et des Grassins payés de ses soins par le don d'une somme de 50 000 francs que lui avait allouée Eugénie, le président se rendit à l'hôtel d'Aubrion et y trouva Charles, au moment où il rentrait dans son appartement, accablé par son beau-père. Le vieux marquis venait de lui déclarer que sa fille ne lui appartiendrait qu'autant que tous les créanciers de Guillaume Grandet seraient soldés. Le président lui remit d'abord la lettre suivante. Mon cousin, Monsieur le président de Bonfons s'est chargé de vous remettre la quittance de toutes les sommes dues par mon oncle et celle par laquelle je reconnais les avoir reçues de vous. On m'a parlé de faillite. J'ai pensé que le fils d'un failli ne pouvait peut-être pas épouser Mademoiselle d'Aubrion. Oui, mon cousin, vous avez bien jugé de mon esprit et de mes manières. Je n'ai sans doute rien du monde, je n'en connais ni les calculs ni les mœurs, et ne saurais vous y donner les plaisirs que vous voulez y trouver. Soyez heureux, selon les convenances sociales auxquelles vous sacrifiez nos premières amours. Pour rendre votre bonheur complet, je ne puis donc plus vous offrir que l'honneur de votre père. Adieu. Vous aurez toujours une fidèle amie dans votre cousine, Eugénie. Le président sourit de l'exclamation que ne put réprimer cet ambitieux au moment où il reçut l'acte authentique. « Nous nous annoncerons réciproquement nos mariages, » lui dit-il. « Ah, vous épousez Eugénie ? Eh bien, j'en suis content, c'est une bonne fille. » « Mais, » reprit-il, frappé tout à coup par une réflexion lumineuse, « elle est donc riche ?»« Elle avait, » répondit le président d'un air goguenard, « près de 19 millions il y a 4 jours. Mais elle n'en a plus que 17 aujourd'hui. » Charles regarda le président d'un air hébété. « 17 millions, oui, monsieur. Nous réunissons, Mademoiselle Grandet et moi, 750 000 livres de rente en nous mariant. » « Mon cher cousin, » dit Charles en retrouvant un peu d'assurance, « nous pourrons nous pousser l'un l'autre. »« D'accord, » dit le président. « Voici de plus une petite caisse que je dois aussi ne remettre qu'à vous, » ajouta-t-il en déposant sur une table le coffret dans lequel était la toilette. « Eh bien, mon cher ami, » dit Madame la marquise d'Aubrion en entrant sans faire attention à Cruchot, « ne prenez nul souci de ce que vient de vous dire ce pauvre monsieur d'Aubrion, à qui la duchesse de Chaulieu vient de tourner la tête. Je vous le répète, rien n'empêchera votre mariage. »« Rien, madame, » répondit Charles. « Les 4 millions autrefois dus par mon père ont été soldés hier. »« En argent ?» dit-elle. « Intégralement, intérêts et capital, et je vais faire réhabiliter sa mémoire. »« Quelle bêtise !» s'écria la belle-mère. « Quel est ce monsieur ? » dit-elle à l'oreille de son gendre en apercevant le Cruchot. « Mon homme d'affaires !» lui répondit-il à voix basse. La marquise salua dédaigneusement Monsieur de Bonfons et sortit. « Nous nous poussons déjà !» dit le président en prenant son chapeau. « Adieu, mon cousin !»« Il se moque de moi, ce catacouas de Saumur. J'ai envie de lui donner 6 pouces de fer dans le ventre !» Le président était parti. 3 jours après, M. de Bonfons, de retour à Saumur, publia son mariage avec Eugénie. 6 mois après, il était nommé conseiller à la cour royale d'Angers. Avant de quitter Saumur, Eugénie fit fondre l'or des joyaux, si longtemps précieux à son cœur, et les consacra, ainsi que les 8 000 francs de son cousin, à un ostensoir d'or, et en fit présent à la paroisse où elle avait tant prié Dieu pour lui. Elle partagea d'ailleurs son temps entre Angers et Saumur. Son mari, qui montra du dévouement dans une circonstance politique, devint président de chambre et enfin premier président au bout de quelques années. Il attendit impatiemment la réélection générale afin d'avoir un siège à la chambre. Il convoitait déjà la pairie. Et alors ? Alors, le roi sera donc son cousin, disait Nanon, la grande Nanon, Madame Cornoyer, bourgeoise de Saumur, à qui sa maîtresse annonçait les grandeurs auxquelles elle était appelée. Néanmoins, monsieur le président de Bonfond, il avait enfin aboli le nom patronymique de Cruchot, ne parvint à réaliser aucune de ses idées ambitieuses. Il mourut 8 jours après avoir été nommé député de Saumur. Dieu, qui voit tout et ne frappe jamais à faux, le punissait sans doute de ses calculs et de l'habileté juridique avec laquelle il avait minuté, à Curante Cruchot, son contrat de mariage, où les deux futurs époux se donnaient l'un à l'autre. Au cas où ils n'auraient pas d'enfants, l'universalité de leurs biens, meubles et immeubles, sans rien accepter ni réserver, en toute propriété, se dispensant même de la formalité de l'inventaire, sans que l'omission du dit inventaire puisse être opposée à leurs héritiers ou ayant cause, entendant que la dite donation soit, etc. Cette clause peut expliquer le profond respect que le président eut constamment pour la volonté, pour la solitude de Madame de Bonfond. Les femmes citaient Monsieur le Président comme un des hommes les plus délicats, le plaignaient et allaient jusqu'à souvent accuser la douleur, la passion de génie, mais comme elles savent accuser une femme avec les plus cruels ménagements. Il faut que Madame la Présidente de Bonfond soit bien souffrante pour laisser son mari seul. Pauvre petite femme, guérira-t-elle bientôt? Qu'a-t-elle donc? Une gastrite? Un cancer? Pourquoi ne voit-elle pas des médecins? Elle devient jaune depuis quelque temps. Elle devrait aller consulter les célébrités de Paris. Comment peut-elle ne pas désirer un enfant? Elle aime beaucoup son mari, dit-on. Comment ne pas lui donner d'héritier dans sa position? Savez-vous que cela est affreux? Et si c'était par l'effet d'un caprice, il serait bien condamnable. Pauvre président! Doué de ce tact fin que le solitaire exerce par ses perpétuelles méditations et par la vue exquise avec laquelle il saisit les choses qui tombent dans sa sphère, Eugénie, habituée par le malheur et par sa dernière éducation à tout deviner, savait que le président désirait sa mort pour se trouver en possession de cette immense fortune, encore augmentée par les successions de son oncle le notaire et de son oncle l'abbé, que Dieu eut la fantaisie d'appeler à lui. La pauvre recluse avait pitié du président. La Providence la vengea des calculs et de l'infâme indifférence d'un époux qui respectait, comme la plus forte des garanties, la passion sans espoir dont se nourrissait Eugénie. Donner la vie à un enfant, n'était-ce pas tuer les espérances de l'égoïsme, les joies de l'ambition caressées par le premier président? Dieu jeta donc des masses d'or à sa prisonnière, pour qui l'or était indifférent et qui aspirait au ciel, qui vivait, pieuse et bonne, en de saintes pensées, qui secourait incessamment les malheureuses en secret. Madame de Bonfond fut veuve à 33 ans, riche de 800 000 livres de rente, encore belle, mais comme une femme est belle près de 40 ans. Son visage est blanc, reposé, calme, sa voix est douce et recueillie, ses manières sont simples. Elle a toutes les noblesses de la douleur, la sainteté d'une personne qui n'a pas souillé son âme au contact du monde, mais aussi la roideur de la vieille fille et les habitudes mesquines que donne l'existence étroite de la province. Malgré ses 800 000 livres de rente, elle vit comme avait vécu la pauvre Eugénie Grandet. N'allume le feu de sa chambre qu'au jour où jadis son père lui permettait d'allumer le foyer de la salle, et l'éteint conformément au programme en vigueur dans ses jeunes années. Elle est toujours vêtue comme l'était sa mère. La maison de Saumur, maison sans soleil, sans chaleur, sans cesse ombragée, mélancolique, est l'image de sa vie. Elle accumule soigneusement ses revenus, et peut-être semblerait-elle parcimonieuse si elle ne démentait la médisance par un noble emploi de sa fortune. De pieuses et charitables fondations, un hospice pour la vieillesse et des écoles chrétiennes pour les enfants, une bibliothèque publique richement dotée, témoigne chaque année contre l'avarice que lui reprochent certaines personnes. Les églises de Saumur lui doivent quelques embellissements. Madame de Bonfons, que par raillerie on appelle « mademoiselle », inspire généralement un religieux respect. Ce noble cœur, qui ne battait que pour les sentiments les plus tendres, devait donc être soumis au calcul de l'intérêt humain. L'argent devait communiquer ses teintes froides à cette vie céleste et donner de la défiance pour les sentiments à une femme qui était tout sentiment. « Il n'y a que toi qui m'aimes, » disait-elle à Nanon. La main de cette femme panse les plaies secrètes de toutes les familles. Eugénie marche au ciel, accompagnée d'un cortège de bienfaits. La grandeur de son âme amoindrit les petitesses de son éducation et les coutumes de sa vie première. Telle est l'histoire de cette femme, qui n'est pas du monde au milieu du monde, qui, faite pour être magnifiquement épouse et mère, n'a ni mari, ni enfant, ni famille. Depuis quelques jours, il est question d'un nouveau mariage pour elle. Les gens de Saumur s'occupent d'elle et de monsieur le marquis de Froidfond, dont la famille commence à cerner la riche veuve, comme jadis avaient fait les Cruchot. Nanon et Cornoyer sont, dit-on, dans les intérêts du marquis, mais rien n'est plus faux. Ni la grande Nanon, ni Cornoyer n'ont assez d'esprit pour comprendre les corruptions du monde. Paris, septembre 1833.